La paix soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Frères et sœurs bien-aimés, il y a 40 jours, nous avons célébré la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur. Mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit-Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur et l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. « Il en va de même pour nous ». Rassemblés par l'Esprit Saint, avançons dans la maison de Dieu à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Prions le Seigneur. Dieu, source et origine de toute lumière, en ce jour, tu as montré à Siméon le juste la lumière qui se révèle aux nations. Nous te supplions humblement, bénis et sanctifie ces cierges. Accueille les prières de ton peuple qui s'est rassemblé pour les porter à la louange de ton nom, qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais. Par le Christ notre Seigneur.
Amen.
Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur.
Gloire au Messie de Dieu, à l'envoyé du Seigneur. Gloire au Messie de Dieu, à l'envoyé du Seigneur.
Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qui l'entre le de gloire.
Gloire au Messie de Dieu, à l'envoyé du Seigneur.
de gloire, c'est le Seigneur le fort, le vaillant. Le Seigneur le vaillant des combats. Gloire au Messie de Dieu, à l'envoyé du Seigneur. Porte levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Gloire au Messie de Dieu, à l'envoyé du Seigneur. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Gloire au Messie de Dieu, à l'envoyé.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait lui offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, Ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fils de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu.
Mes amis, chers frères et sœurs, quelle joie de nous rassembler ce matin dans cette église de notre prieuré de la Côtellerie. Merci à nos frères de nous accueillir une fois de plus. Alors nous sommes un certain nombre ici, mais nous sommes loin de représenter toute la vie consacrée du diocèse. Je pense bien sûr à nos contemplatives en particulier qui, s'ils ne sont pas là, c'est qu'elles tiennent leur poste d'adoratrices, de priantes. Je pense à toutes celles et ceux qui ne peuvent pas venir parce qu'il y a des épreuves de santé et là on en a beaucoup, beaucoup dans nos vierges consacrées. Je pense à Claire, je pense à Marie-Noël. Et puis dans nos religieuses apostoliques, on peut penser à sœur Emmanuelle en particulier, sœur Simone aussi, la miséricorde, qui a très fort besoin de notre prière en ce moment. Et tous ceux et celles que nous connaissons, nous les associons bien sûr à toutes les intentions de notre célébration. Alors, au cœur de ce beau récit de la présentation du Seigneur au Temple, que notre frère Marie-François vient de nous proclamer, il y a bien sûr cette exclamation émerveillée du vieillard Siméon tenant dans ses bras l'enfant Jésus. Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Mes yeux ont vu le salut. C'est cette affirmation de foi qui est aussi un cri du cœur, que j'aimerais vous inviter à accueillir aujourd'hui d'une manière nouvelle, neuve, parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, donc c'est toujours neuf. et l'inviter au jour où, c'est pas un scoop, mais vous le savez peut-être, nous célébrons aujourd'hui le 150e anniversaire de la reconnaissance canonique par Monseigneur Vicard, premier évêque de Laval, de l'apparition de Pontmain. Quand même un événement. C'était le 2 février 1872. Jamais une apparition n'a été reconnue aussi vite dans l'histoire de notre Église. Pas de doute. C'est clair, c'est net. On y va. Et donc, vous permettrez, mes frères et sœurs, qu'il y ait, dans la tonalité de votre évêque aujourd'hui, un peu la même insistance, à la fois douce, mais exhortative, parrainétique, que celle de Marie s'adressant à tous les chrétiens rassemblés le 17 janvier de 1871, parce que il y avait quand même dans son message vraiment une belle insistance pour réveiller la foi. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. Alors elle nous montre, Marie, le crucifix rouge ensanglanté, pour que nous aussi puissions dire « Mes yeux ont vu le salut » à la suite de Siméon. Il me semble que, dans la lumière de cette parole, nous pouvons explorer à nouveau, ce matin, les profondeurs de notre vocation de consacré. La vocation consacrée, en effet, la vocation religieuse, n'est rien d'autre et rien de moins que l'expropriation d'une existence privée pour qu'elle soit mise au service du salut universel. Aussi, à chacune et chacun, le Seigneur, ce matin, repose la question décisive. À la suite de Siméon, tes yeux, pas ceux du corps, mais ceux de ta foi aimante, tes yeux sont-ils assez purs pour voir le salut qu'aujourd'hui encore j'offre à tous les peuples? Et si réellement tu vois ce salut, consens-tu alors à t'en remettre entièrement à Dieu pour être donné par lui au monde à sauver? Ce oui libre et personnel que nous avons dit à l'aube de notre engagement dans la vie consacrée, pouvons-nous le redire ce matin en l'élargissant à la dimension de l'Église et du monde? Se peut-il que notre disponibilité ne soit pas enchâssée dans les limites de nos attentes et de nos désirs par trop subjectifs, mais qu'elle soit, plus largement, oui, mise au service de la rédemption du monde, mise au service d'un monde qui reste aujourd'hui encore à sauver. Se peut-il en définitive que notre disponibilité soit inconditionnelle à l'exemple du oui de Jésus et de Marie? Allons-nous accepter, comme eux, d'être envoyés et conduits par le Père bien au-delà de notre volonté humaine et devenir ainsi des instruments aussi dociles que possible entre les mains du Sauveur? Seule cette disponibilité-là, nous le savons bien, a une force rédemptrice dans la grâce du Christ. Et c'est ce qui justifie, bien sûr, dans l'Évangile, les exigences fortes de Jésus à tout quitter pour le suivre. Mes yeux ont vu ton salut. C'est la profession de foi d'un vieil Israélite qui voit dans le Christ l'accomplissement de toutes les prophéties, qui reconnaît en Jésus et en lui seul le don de Dieu pour le salut de l'humanité. Et donc nous voici provoqués à notre tour à refaire cet acte de foi à l'étape qui est la nôtre et dont la situation pas simple, il faut bien le reconnaître, que vivent nos familles religieuses aujourd'hui. Lorsque vient en effet le temps de l'érosion des vocations, du vieillissement des communautés, lorsque nos congrégations ne sont plus en capacité, autant qu'avant, en tout cas, d'exercer le charisme fondateur qui leur est propre, lorsque, apparemment au moins, les jeunes ne voient plus la vie religieuse comme une option appropriée, capable de canaliser leur idéal et leur générosité, ah ben oui, la tentation du découragement n'est pas loin, jusqu'à une possible remise en question de son appel personnel. Me serais-je égaré? Me serais-je trompé? Avec ce doute porté sur nos capacités réelles, dans les conditions de pauvreté qui sont les nôtres, vais-je pouvoir véritablement tenir jusqu'au bout mon engagement à la suite du Christ? Le vieillissement de nos communautés, c'est trop clair, peut entraîner en leur sein un manque de vitalité et de créativité et la peur surtout de prendre des risques et d'assumer de nouvelles initiatives. C'est là que l'appel nous est adressé une fois de plus à miser pour de bon notre vie sur la personne de Jésus. Et miser sur Jésus, miser sur sa personne, sur son destin, sur sa volonté, c'est entrer dans une obéissance qui nous conduise logiquement à perdre notre vie et à porter notre croix à la suite de Jésus. Nous le savons bien, même si le chemin est long pour y parvenir, seule une donation totale et inconditionnée peut être féconde au sein de notre Église. Miser sur Jésus, tout quitter à cause de lui, c'est consentir à sortir de l'orbite de son propre moi, pour ne s'accrocher qu'à Jésus, ne compter que sur lui, ne tenir que sur lui, n'avoir pas d'autre point d'appui que lui. Mes yeux ont vu le salut. Pour voir le salut de Dieu, il nous faut préalablement, comme Siméon, prendre Jésus dans nos bras et le serrer tout contre son cœur. C'est cela, tout miser sur la personne de Jésus. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il est la lumière de nos vies, la lumière de nos cœurs. C'est bien le sens de notre célébration aujourd'hui. Je pense à ce qu'écrivait l'auteur des Odes de Salomon, un bel écrit du chrétien du 1er siècle. « Ma joie, c'est le Seigneur, car il est mon soleil. » Grâce à lui, j'ai acquis des yeux et j'ai vu son jour saint. Prendre Jésus dans ses bras, le serrer tout contre son cœur, c'est goûter la joie intense de ceux et celles qui, comme Siméon, se sont exposés au regard de Jésus et à sa présence d'amour. Même au plus profond de nos nuits, Jésus, l'astre d'en haut qui vient nous visiter, peut, de sa lumière, nous envelopper de toutes parts sans laisser place à aucune ombre. Alors permettez-moi d'y insister. En ces temps incertains que nous vivons, en cette situation d'appauvrissement et de purification aussi que traversent nos églises, il ne sert à rien de déplorer la rudesse des temps en nous enfermant dans nos regrets mélancoliques. Ce que le Seigneur nous demande, encore une fois, c'est que nous mettions notre existence personnelle à la disposition de sa volonté de salut. Et nous le savons, dans la vie consacrée, cette disponibilité prend forme dans les trois conseils évangéliques de chasteté, pauvreté et obéissance. Nul autre que toi, c'est la virginité. Rien d'autre que toi, c'est la pauvreté. Non pas ma volonté, mais la tienne, c'est l'obéissance. Ces trois vœux concourent en définitive à la dynamique de cette expropriation de nous-mêmes pour le royaume, expropriation de nous-mêmes pour devenir avec le Christ instrument de salut, du salut du monde. Que demander d'autre au Seigneur en définitive, sinon ce courage de l'engagement? Que demander d'autre sinon ce réveil en nous de toutes les forces du don, celles du cœur, du corps, de l'intelligence, pour que nous soyons pleinement à la hauteur de cette mission d'amour que Dieu nous confie? Oui, nous voici convoqués aujourd'hui à refaire un acte de foi, croire que si Dieu nous a tous et chacun appelés, c'est parce qu'il nous aime et que nous avons du prix à ses yeux. Croire qu'en le rechoisissant comme notre premier et unique amour, il nous inspirera des manières nouvelles de vivre les charismes de nos fondateurs pour répondre aux appels les plus pressants de notre temps. Croire que seul un sursaut donné à notre engagement dans l'amour et dans le don de soi réallumera la joie dans les cœurs, dans le nôtre d'abord, et dans le cœur de tous ceux que nous croiserons sur nos routes. Qu'il en soit ainsi. Amen.